Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Isabelle Giordano.
Bonjour Patrick.
Vous avez été pendant 6 ans à la tête d'Unifrance, l'organisme chargé de promouvoir et d'exporter le cinéma français à travers le monde, et vous vous êtes rendu compte à quel point la France était assise sur un trésor, sa culture et particulièrement son cinéma, admiré et respecté d'un bout à l'autre de la planète. Dans le livre que vous faites paraître chez Fayard, Un trésor français, vous racontez d'abord ces scènes incroyables de ferveur autour de films ou de grands acteurs. On va y Après avoir rappelé le poids économique considérable de ce secteur et sa capacité d'influence, ce qu'on appelle le soft power, nous sommes l'un des leaders culturels mondiaux.
Exactement, premier pays en Europe à produire des films. Deuxième pays exportateur de films, on m'entendra peut-être mieux sans masque, on est éloigné donc je peux me l'autoriser. Et effectivement, je me suis rendu compte pendant 6 ans à quel point le monde entier aimait la France, une certaine France, la France de la pensée, la France de la liberté, la France du siècle des Lumières, et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on est les spécialistes du French bashing et pourquoi on se déteste autant. Et puis aussi des interrogations quand même, aller de pays en pays et de voir que cette idée justement de liberté et de démocratie n'est pas partagée par tous, ça m'a laissé vraiment songeur.
Une particularité aussi rarement mise en avant, nous sommes le pays qui compte le plus de femmes cinéastes.
Exactement, et puis bien sûr que c'est normal de se battre pour
25%.
Avoir... Voilà, on devrait se battre pour en avoir encore plus, et je sais qu'elles sont nombreuses à se battre pour cela en France, mais regardons aussi déjà ce qui le verre à moitié plein et pas seulement à moitié vide, et soyons fiers justement d'avoir toutes ces femmes cinéastes qui depuis longtemps, d'ailleurs depuis Agnès Varda, portent très haut les couleurs du féminisme, à tel point que les féministes américaines s'inspirent de nous. C'est très étonnant de voir à quel point nous sommes une source d'inspiration pour le féminisme, mais aussi pour l'idée qu'on peut se faire de la diversité. Là aussi, la France qu'on aime à l'étranger, c'est bien sûr la France de François Truffaut, de Brigitte Bardot, mais c'est aussi Lajli, c'est aussi Amé Ekwe, c'est aussi Amandine Gay. Ce sont des gens, effectivement, qui représentent la France dans sa pluralité et sa diversité. Et je n'arrive toujours pas à comprendre, et on bute encore, hein, encore aujourd'hui, sur cette question. J'entendais encore ce matin le rappeur Youssoupha le dire avec ces mots-là. Pourquoi est-ce que certains en France ne comprennent pas que la diversité et la pluralité est une richesse. Voilà, s'appeler Jamel ou s'appeler Jean-Claude, c'est être français.
Agnès Varda, dont vous avez été le témoin de son incroyable rayonnement à travers le monde, vous le racontez.
Et c'était une chance de faire beaucoup de voyages avec elle.
Oui, elle était formidable. Deux icônes aussi, notamment en Asie, Isabelle Huppert et Catherine Deneuve. Et c'est intéressant, c'est la façon dont vous analysez aussi les raisons du succès de ces actrices, de leurs films. Si elles fascinent autant, par exemple, Huppert et Deneuve, c'est que ce sont des femmes qui osent,
exactement,
qui transgressent.
Oui, voilà.
Ça, c'est très intéressant.
L'exportation du cinéma français, c'est pas juste exporter des films. C'est exporter, au-delà de ça, des idées, des valeurs, des messages, et des messages forts. Et c'est vrai que si Catherine Deneuve et Isabelle Huppert ou Agnès Varda sont connues à ce point-là, il y a une différence entre être acteur et être une star. Donc quand on est connu et reconnu à ce point-là, c'est qu'on porte quelque chose en soi. Et ce qu'elle porte, ça tient en un mot, c'est l'audace. Et c'est vrai que ce sont des femmes qui osent. Si vous voyez l'image de, vous rappelez de Brigitte Bardot qui danse pieds nus sur la table dans Et Dieu créa la femme, si vous voyez également le nombre de films qu'a pu faire Catherine Deneuve qui sont sulfureux, que ce soit Tristana, Répulsion au début de sa carrière, Les Parapluies de Cherbourg, dont personne ne voulait, c'est quand même un film où tout le monde avait dit non au début pour le financer, et jusqu'à ce qu'elle choisit comme film aujourd'hui d'apparaître mal habillée en bottes jaunes dans les films d'Emmanuel Berco, et on a hâte de voir d'ailleurs comment elle apparaîtra dans le prochain film d'Emmanuel Berco à Cannes.
Ce sera à Cannes, oui.
Voilà, et la même chose pour Isabelle Huppert, le nombre de fois où on a ri sous cap avec Isabelle Huppert, effectivement en voyant les réactions des spectateurs un peu choqués, effectivement.
Elle a été diabolique, meurtrière.
Elle a été, violée, etc. Donc Elle a endossé toutes sortes de rôles de femmes perverses et sulfureuses, et c'est cette idée-là qui fait mouche, parce qu'on nous regarde du coup avec les yeux écarquillés. Les gens souvent me disaient, mais il n'y a que vous les Français qui pouvez oser faire des choses comme ça.
Ouais. C'est vraiment ça. D'une façon générale, ce qui fait la singularité des films français dans le paysage, c'est leur insolence ou leur impertinence.
Si vous additionnez, si vous mettez de côté les 20 succès au box-office à l'étranger, effectivement, les films qui ont cartonné partout dans le monde, alors vous mettez Amélie Poulain, vous mettez Intouchable, vous mettez The Artist, etc. Je pourrais en mettre beaucoup d'autres, mais juste, voilà, vous prenez cela, La vie d'Adèle, Et vous voyez qu'effectivement, le point commun, c'est l'audace. Mmh. Ce sont des films qui, effectivement, peuvent être en noir et blanc sans aucun mot prononcé, mettre en scène un handicapé, voilà, avec un black, alors que tout le monde, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée. Il y a beaucoup de pays au monde où on vous dit, on n'achète pas de films parce qu'il y a des noirs. Voilà. Le jour où on m'a dit ça, oui, voilà, je suis restée comme vous, je suis restée sidérée. Eh bien, c'est ça l'état du monde. Voilà, c'est encore il y a deux jours, je parlais avec un ingénieur du son à Los Angeles qui travaille avec Tarantino. Il me disait, je crois que les Français, vous ne vous rendez pas compte, vous avez de la chance. Marine Le Pen, c'est de la gnognotte. Aux États-Unis, c'est 75 millions de fachos racistes. Et c'est très dur de vivre aux États-Unis aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas eu le Covid, sans doute que Donald Trump aurait été réélu. Il a encore beaucoup d'aficionados. Je ne dis pas qu'effectivement on est gâté en France, la situation est certainement dure, notamment pour les 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais je crois que nous vivons avec un trésor qui est le système français et qui est aussi cette culture française qui est faite de générosité, de pluralité et effectivement d'ouverture d'esprit. Là encore, je prends un plan de cinéma, vous filmez un homme, une femme assis à une terrasse d'un café, c'est un plan de cinéma, mais c'est, au-delà de ça, c'est bien autre chose. C'est la conversation, c'est la dispute, c'est l'esprit de Voltaire, c'est Rousseau, c'est Bach, c'est Cervantes, c'est tout ce dont on pourrait effectivement parler pendant des heures et des heures. C'est un homme et une femme qui discutent ensemble. Là aussi, c'est quasiment impossible dans certains pays, et pas seulement les pays qui sont dans l'islamisme radical. Également, dans certains pays, aux États-Unis, la conversation entre un homme et une femme est parfois un petit peu compliquée.
On ne parle pas seulement de films intellectuels ou art essai. Vous pensez que les Français devraient être aussi plus fiers de leurs comédies, celles qui s'exportent incroyablement bien et qui ne sont pas forcément toutes transgressives ou insolentes.
Eh ben, la culture française est ainsi faite qu'il y a des clans, qu'il y a des chapelles, qu'il y a des conservatisme, là où on devrait être toujours tourné vers l'avant-garde et l'ouverture d'esprit. Là aussi, c'est le constat que je fais. C'est bien dommage, et si vous regardez, on devrait le faire, hein, à la loupe, même si ça pique un peu les yeux, la dernière cérémonie des Césars, vous avez une lecture parfaite de l'état, non seulement du cinéma français, mais surtout de la société française.
On peut vous dire que c'est de l'insolence aussi. Vous faisiez l'éloge de l'insolence
tout à l'heure, Isabelle. Une certaine forme d'humour, mais il y a eu aussi une forme d'entre-soi, puis une manière de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et puis, vous voyez, on a mis un peu sur un strapontin, nos amis du Splendide, parce que bon, la comédie française, etc., elle n'est pas jugée à sa juste valeur, alors que ce sont des grands succès à l'international, et j'avais beaucoup de plaisir à Unifrance à célébrer à leur juste valeur les gens qui les réalisent et les gens qui les produisent, qui sont des gens formidables.
En résumé, vous pensez que...
Ils ne sont pas moins intelligents que ceux qui vendent du cinéma à télé.
Il y a pas mal d'acteurs de la culture en France qui ne mesurent pas la chance qu'ils ont,
oui,
si je résume. Hein.
C'est exactement ça.
Et vous pensez pourtant aussi, Isabelle Giordano, que ce système est fragile, en tout cas qu'il a des faiblesses, qu'il peut être amélioré. Vous voyez les nouveaux acteurs émerger. La Corée du Sud, qui est devenue en 10 ans le champion de la culture populaire. Que proposez-vous? Que les choses soient davantage coordonnées au niveau de l'État avec un label French Touch? Alors, je ne sais pas s'il faut une expression anglaise pour promouvoir la culture française.
C'est une langue parlée dans le monde entier. Mais en tout cas, c'est vrai que s'il y a un pays au monde qui devrait être fier de prendre la culture comme un outil à la fois de diplomatie, de soft power, c'est bien nous. Mais il y a malheureusement d'autres champions qui le font mieux que nous. Je parle de la Corée, je parle du Canada. Je prends aussi l'exemple des Anglais qui sont très forts justement pour éviter ce qui nous est un peu comme un boulet que l'on a en permanence aux pieds, c'est cette forme de bureaucratie. À la tête d'Unifrance, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, de travailler avec le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères, et bien sûr avec le CNC. Mais malheureusement, c'est vrai que parfois, on voit que dans ces institutions, et notamment dans les institutions culturelles, il y a parfois une forme d'état profond et de bureaucratie qui nous empêche d'être efficace. Le mot efficace, parfois, fait peur dans les instances du public, mais je crois qu'effectivement, la recherche de la lisibilité et de l'efficacité, elle doit nous concerner tous, et pas seulement le secteur privé. Et, et puis le simple fait d'avoir l'esprit de l'intérêt général, l'esprit du service public, il n'est pas réservé qu'au service public. On peut l'avoir dans le privé, je le sais, je l'expérimente aujourd'hui à la tête d'une fondation, dans la philanthropie. Et effectivement, c'est cette idée-là de se dire que l'on a envie d'être dans la promotion d'idées fortes et généreuses et d'idées de l'intérêt général. Ça peut se faire aussi un peu partout et avec une forme d'efficacité.
C'est la fondation BNP Paribas, je vais la citer. Un trésor français dans les coulisses du soft power chez Fayard. Merci beaucoup Isabelle Giordano, c'était un plaisir de vous retrouver devant un micro.
Merci à vous Patrick.
À bientôt.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations pour 13h. Et puis la France bouge. Bonne journée et à demain midi et demi sur Europe 1.